Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Seplezy. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisée à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Seplezy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast et qui d'ailleurs est un peu méconnu ou très rarement abordé sur les sujets marketing. Pourtant, c'est un levier qui peut être super pertinent et efficace quand il est bien abordé. Ce levier, c'est le partner marketing. Et pour en parler, je suis avec Charlène Autois, qui est Head of Partner Marketing EMEA chez Zendesk. Bonjour Charlène.
Bonjour Axel.
Écoute, je suis ravi que tu aies répondu à mon invitation pour parler de ce sujet-là, parce que bah, je le disais, j'en parle un peu tardivement parce que on est déjà avancé dans les épisodes du podcast, mais au final c'est un sujet qui mérite d'être abordé dans le spectre marketing. Donc je suis ravi de pouvoir t'avoir pour en parler.
Ben, je suis ravie également que tu m'aies invité pour parler de ce sujet hautement passionnant.
C'est clair. Non, c'est vrai que c'est, en fait, tu vois, on en parlera, mais c'est clairement pas le premier levier auquel on pense quand on démarre et puis qu'on veut mettre en place du marketing, alors que ça peut être super pertinent et efficace. Donc tu vas nous en dire un peu plus. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, du coup, je vais peut-être te laisser te présenter quand même pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît.
Oui, avec plaisir. Alors moi, je travaille dans le secteur donc des nouvelles technologies, éditeurs de logiciels, depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et donc, j'ai développé ma carrière marketing B2B au sein d'entreprises SaaS telles que Salesforce, Talentsoft, OVH et j'en cite quelques-uns. Et cela fait maintenant 5 ans que j'évolue donc au sein de la société Zendesk. Et peut-être pour rappeler rapidement qui est Zendesk, donc on est éditeur d'une solution omnicanal qui est centrée sur le service client. Et au sein de Zendesk, donc j'ai eu l'opportunité en tant que field marketing de développer donc toute la partie marketing sur l'Europe du Sud. Et aujourd'hui, et je m'excuse pour l'anglicisme, donc je suis Head of Partner Marketing EMEA, donc où je développe donc toute la stratégie marketing avec notre écosystème de partenaires. Voilà.
Très cool. On va pouvoir en parler plus en détail justement. Déjà pour commencer, est-ce que tu peux me définir un peu ce que c'est, ce qu'on appelle partner marketing? Alors évidemment, il va y avoir plein d'anglicismes, mais c'est affreux. Ouais. Moi, j'avais horreur de ça. Et depuis que je travaille dans le market, je ne parle plus qu'en anglais, donc c'est terrible. Mais on va faire avec. Est-ce que du coup, ouais, peut-être tu peux revenir sur la définition, les différents types de partenariats qu'on peut rencontrer, et puis les enjeux auxquels ça répond?
Ouais, et ben je vais essayer donc d'apporter une définition assez simple et comme tu le dis, voilà, il y en a énormément, mais en gros vu que c'est un concept un petit peu nouveau, tout le monde va un peu le définir à sa manière, mais en tout cas pour moi le partner marketing va vraiment faire partie d'une stratégie, on va dire go to market, dans laquelle deux entreprises donc vont collaborer pour pouvoir promouvoir donc mutuellement leurs produits et leurs services et bien évidemment pour driver du pipe. Donc pour ça, ces deux entreprises, elles vont organiser des activités marketing, si on se focalise là-dessus, et qui vont donc susciter un peu l'intérêt de leurs clients et prospects mutuels. Donc voilà un peu pour cette définition-là. Et pour répondre à ta question différents types de partenariats, alors ça va vraiment, je pense, dépendre aussi un peu du secteur dans lequel on se trouve. Mais en tout cas, dans mon secteur à moi, on va avoir différents types de partenaires. Donc, on va avoir les partenaires, on va dire, go-to-market. Donc, ces partenaires go-to-market, on va avoir les partenaires, dire, revendeurs ou reseller, voilà, un premier anglicisme.
C'est parti.
Donc, ils vont, voilà, c'est parti, qui vont donc revendre donc la solution. On va voir les partenaires dits referrals, donc qui vont recommander la solution. Les partenaires d'implémentation, donc eux, ils vont plutôt déployer donc les solutions chez les clients et voilà, apporter un peu leur expertise. Et ensuite, on va avoir donc en parallèle des go-to-market, on va avoir les partenaires dits technologiques. Et eux, en gros, ils vont créer une technologie qui, en général, va venir compléter la solution. Et en général, c'est avec des solutions qui sont toujours assez innovantes, donc assez intéressantes. Et enfin, on va avoir, donc, en tout cas pour nous, les BPO, que ce qu'on appelle les outsourceurs. Donc, okay. C'est toutes les plateformes, par exemple, de gestion de téléphonie ou des choses comme ça. Donc voilà un petit peu pour les différents types de partenariats. Et vraiment, on va dire, l'enjeu de tout ça, c'est vraiment d'accroître le revenu de l'entreprise en incrémental, comme on l'appelle. Donc, avec des forces de vente dites indirectes. Donc, indirectes, c'est le contraire de direct avec les commerciaux au sein des entreprises, comme on le sait. Et puis, permettre aussi de gagner donc des nouveaux segments de marché. Aussi, ce partenariat, il va permettre parfois de conclure des contrats peut-être plus rapidement, dans un process un peu plus rapide. Aussi, de fidéliser des clients. Et pour moi, ça va être également une extension de notre service commercial, quand parfois, peut-être, on peut avoir des ressources qui vont être un peu plus limitées.
Ok, très cool. Donc, tu l'as dit, effectivement, différents types de partenariats. Alors, technologique, on va dire, pour étendre un petit peu les capacités de ta solution. Puis en même temps, quand on est dans le SaaS, dans le logiciel, forcément, il y a des intégrations. Enfin, on n'est jamais dans un écosystème, on n'est pas une bulle fermée, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est important. Et puis après, beaucoup de partenariats, du coup, go-to-market, tu l'as dit, donc des partenariats plus orientés commercial, vraiment.
Voilà. Et business, exactement. Ouais.
Donc, le but est de développer du business. Du coup, j'allais dire, c'est quoi le rôle du partner marketing chez Zendesk? Est-ce que vous axez plutôt sur un point, sur l'autre? Enfin, du coup, comment ça rentre un petit peu dans
le... Non, on englobe tout ça. Donc, okay. Ça fait beaucoup, au final, de partenaires à gérer et aussi plein de stratégies différentes à mettre en place, justement, selon la typologie des partenaires. Mais vraiment, notre rôle, il va être de générer de la demande avec et par l'intermédiaire donc de ces partenaires, en engageant en fait les clients et les prospects avec des histoires qui vont être mutuelles et convaincantes pour cette cible-là, et plus qui vont mettre donc en avant nos solutions, nos produits et nos services. Notre autre fonction aussi, elle va être d'informer et d'inspirer les partenaires pour qu'ils s'engagent aussi avec nous et développent leur activité avec nous. C'est un peu un win-win, comme on dit. Et puis voilà, les stratégies, la conception et l'exécution des programmes de co-marketing qu'on va mettre en place, elles vont servir bien évidemment directement ces partenaires-là, à la différence étant que, par exemple, quand on a des fields marketing en entreprise, les actions qu'ils vont mener, eux, vont servir leurs commerciaux directement, si on fait un peu ce petit parallèle. Et voilà, et donc, grâce à ces actions-là de co-marketing, on va venir amplifier notre message auprès d'une cible qui ne serait pas ou parfois difficilement atteignable en marketing direct, par exemple. Donc,
Ok. Du coup, concrètement, au niveau de ton rôle, c'est quoi les responsabilités du marketing dans ce qu'on appelle le partner marketing, entre de l'identification des partenaires, tu vois, au final, à l'animation de ce réseau-là?
Ouais, alors nous, on va pas intervenir sur tout ce qu'on appelle la partner journey, voilà un nouvel anglicisme, mais en gros on va collaborer avec beaucoup d'autres équipes en interne qui vont justement s'occuper de cette partie, on va dire plutôt identification et recrutement, donc des bons partenaires, donc ce qu'on appelle des partner sales exécutives chez nous. Donc moi c'est vraiment mon binôme quoi, en gros on travaille main dans la main et c'est eux qui selon voilà leur le territoire qu'ils vont couvrir et leurs besoins vont identifier les bons partenaires justement pour venir combler les manques sur ce territoire avec les bons partenaires. Donc eux vont s'occuper de cette partie là pardon, et ensuite une fois que ce partenaire est identifié, il va être onboardé dans l'entreprise, et là on a une autre équipe qui est l'équipe enablement qui va venir donc former ces partenaires là sur des aspects un peu plus techniques, un peu plus sales, etc. Et vont leur donner en fait tous les outils pour avoir le même savoir en fait que nos commerciaux en gros en interne. Et ensuite sur cette brique là nous on va se rajouter donc la partie partner marketing pour aider les partenaires à mieux commercialiser donc les produits sur les marchés. Et donc c'est là où moi je vais intervenir sur la partie réflexion des plans marketing avec ces partenaires, voir quelle est l'histoire qu'on va raconter en fait mutuellement et les actions à mettre en place selon des objectifs chiffrés, etc. J'espère que ça répond à ta question.
Ouais, c'était un peu ça, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est effectivement ces différents rôles. Enfin, tu l'as dit, au final, le partenaire, vous le considérez un peu comme un client, j'allais dire, tu as parlé de partner journey, mais du coup, on est ça, en fait, on est presque sur le parcours d'achat d'un client, dans le sens où t'as l'équipe un peu commerciale qui va aller identifier les bons partenaires, les solliciter et tout, ça, c'est onboarding, parce qu'il faut pas oublier qu'effectivement, des partenaires, il faut les former à l'utilisation de ton outil, à l'utilisation de tes supports commerciaux, au discours commercial, à l'utilisation de la solution et tout, pour qu'ils soient... que ce soit cohérent du coup avec ton image de marque et puis avec ta proposition de valeur.
C'est ça.
Et puis après du coup toi ton rôle au marketing au final c'est de concevoir avec eux la stratégie marketing qu'ils vont appliquer pour aller chercher des clients.
C'est ça.
Du coup directement.
Voilà. Et puis on va intervenir en plus en leur mettant à disposition en fait ce que j'appelle un peu la boîte à outils marketing, hein, si on se focalise sur la partie marketing, mais on va essayer de leur mettre à disposition un maximum de contenu et qui va être personnalisé pour eux, pour leur permettre de d'exécuter au mieux les campagnes quoi. Donc
OK. Et donc jusqu'à quel point t'interviens du coup dans cette stratégie marketing?
Alors c'est quoi jusqu'à quel point?
J'allais dire, est-ce que du coup tu vas les aider à concevoir la stratégie marketing? Est-ce que du coup tu vas aller jusqu'à leur expliquer, tu vois, comment faire de l'ads, comment faire des ads?
Écoute, c'est marrant oui que t'en parles parce que parfois j'ai l'impression d'être un peu un vrai conseil en marketing, mais en gros ça va dépendre de la maturité du partenaire que tu vas avoir en face de toi. T'as certains partenaires qui vont avoir des capacités plus fortes que d'autres, donc en fonction de l'interlocuteur que tu as, il y en a qui vont savoir parfaitement ce qu'il faut faire, donc là t'es juste en tant que tu donnes ton avis, oui, non, une bonne idée, pourquoi pas, et d'autres où on va devoir un peu plus pousser et brainstormer un peu plus, aller un peu plus loin en fait sur les actions à mettre en place, parce que ils n'ont pas trop d'expérience ou pas trop d'idées, j'en sais rien, mais ça va vraiment dépendre de la maturité en fait du partenaire que tu vas avoir, voilà.
Ok.
Donc, très intéressant. Ça peut aller très loin.
Ouais, ça peut aller loin en fonction de la maturité en face,
ouais,
effectivement.
C'est ça.
Ok. Et du coup ça, alors au final c'est ton rôle dans l'accompagnement de la strat marketing, parce que ton but au final c'est de faire réussir tes partenaires, parce qu'il faut pas oublier que tu fais ça quand même pour que à la fin ça contribue toi, enfin au pipe ou en tout cas au revenu
général
global de l'entreprise.
Ouais.
Donc tu vas les accompagner individuellement, on va dire, sur la partie strat marketing. Après au final t'as une communauté de partenaires que tu dois animer. aussi, ça fait sa partie de tes missions encore, ça?
Oui, aussi, alors oui, tout à fait. Alors pour moi, ça, c'est une des parties, on va dire. Alors c'est bien, on parle de toute cette partie en amont, effectivement, de plans, de chiffres, d'objectifs, etc. C'est une chose, mais derrière, faut pas oublier aussi cet aspect un peu plus humain et communauté. Pour moi, c'est super important. Cet aspect communautaire comme tu l'as appelé, et là on met en place pas mal de choses pour permettre de se réunir, de parler, d'échanger, de partager des bonnes pratiques. On va utiliser des tactiques un peu classiques type newsletter pour updater un peu nos partenaires de manière régulière sur toutes nos dernières updates, les ressources mises à disposition, les campagnes du moment, etc., etc. Et puis après, on va avoir, moi j'ai monté d'un point de vue marketing plus spécifique, une communauté de partenaires marketeurs, donc on se réunit tous les mois et donc c'est en virtuel hein, parce que mon spectre il est totalement Europe, donc là on le fait en virtuel. Et là, c'est du contenu purement marketing que je partage. Et là, on va aller un peu plus en profondeur sur les sujets. Des campagnes, qu'est-ce que c'est, comment on les exécute, des exemples. Et puis c'est un espace aussi donc d'échange où les partenaires peuvent vraiment poser toutes les questions spécifiques marketing. Et ça, j'y tiens très à cœur parce que on se parle pas forcément beaucoup en tant que partenaire marketeur. Et c'est bien d'instaurer un peu un espace, pour moi en plus, qui est totalement transparent et pas du tout dans la compétition, hein, parce que j'évite un peu tout ça. Et je veux que que les gens se sentent libres en tout cas de venir et de partager. Moi en tout cas, mon but, il est vraiment de partager mes bonnes pratiques et surtout les bonnes pratiques de l'entreprise. Donc voilà un petit peu comment c'est animé. Puis après voilà, je peux t'en citer plein d'autres, mais moi en tout cas, c'est un de mes points les plus importants aujourd'hui.
Ok, des rendez-vous réguliers et tout, effectivement, pour animer ça et puis rajouter un peu d'humain et partager les bonnes pratiques. Quoi.
Et écouter aussi, écouter. Okay. Récolter des feedbacks, etc. Voilà, ça, pour moi, c'est important.
Oui, parce que du coup, au final, ils sont aussi au contact des clients, de segments de clients, et donc ils ont aussi des insights marché à te ramener par rapport à ça, quoi.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis même parfois, eux peuvent avoir des idées de bonnes pratiques à partager qui vont, même toi, te faire réfléchir et peut-être mettre en place de nouvelles choses. Faut s'ouvrir en tout cas, faut pas rester derrière son ordinateur que focaliser sur son écran, mais faut s'ouvrir aux autres, ouais.
Ouais, effectivement, c'est pas que top down quoi, c'est pas non. C'est pas que descendant en tout cas comme relation
non.
quoi.
Non non.
Top. Et on le dit, alors on en a parlé un petit peu en préparant l'épisode, mais en fait le but, c'est pas non plus de collectionner les partenaires pour dire d'en avoir le plus possible. Tu l'as dit au début, faut pas oublier que c'est censé contribuer du coup au business, et c'est pour ça que tu le fais. Du coup, j'allais dire, le truc un peu classique qu'on voit, tu vois, enfin moi en tout cas j'ai déjà observé chez plusieurs SaaS, c'est ces espèces d'avoir de niveaux de partenariat un peu classique, tu sais, gold, silver et tout. Est-ce que c'est un modèle déjà que tu trouves pertinent, enfin qu'est-ce que t'en penses, est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez mis en place, tu vois, enfin. Voilà. C'est quoi ton avis sur ce sujet-là ?
Écoute, ça va vraiment dépendre de la stratégie que tu veux mettre en place avec tes partenaires. Alors moi, personnellement, j'aime pas trop le gold, silver, platinum. Ouais. En général, c'est un peu plus utilisé, tu sais, sur du sponsoring quand on fait des événements. Mais bon, c'est pas forcément une dénomination que j'aime trop. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Hein. C'est un peu mon avis. Nous, chez Zendesk, donc oui, c'est toujours bien de mettre un peu des catégories et donc des règles qui vont permettre aussi de suivre un petit peu les évolutions de ton partenaire dans ton entreprise. Nous spécifiquement, même dans mes expériences passées, c'était également ça. Il y a toujours, tu vois, une séparation, enfin différentes catégories en fait qui sont mises en place, et selon en fait ces catégories là si tu veux évoluer dans l'écosystème partenaire, ben tu dois, je sais pas, par exemple faire des formations ou plein d'autres choses. J'ai pas forcément d'autres exemples en tête, mais qui vont te permettre, voilà, de débloquer des avantages et te faire passer, tu vois, d'un grade à un autre, et puis et avoir les avantages qui vont avec. Donc oui, c'est toujours pertinent et pas mal de mettre ça en place, mais quand on démarre, voilà, ça c'est faut bien le réfléchir. Peut-être que ça vient un peu plus tard. Déjà, quand tu démarres pour mettre en place un programme de partner marketing, l'idée c'est plutôt de se focaliser sur quels sont les partenaires avec lesquels tu souhaites travailler, ceux qui sont prêts à aller avec toi, tu vois, dans ce voyage, on va dire. Ouais. Et puis après, t'as tout le reste qui se construit au fur et à mesure.
Ok. Et du coup, te poser une autre question, enfin pas par rapport à ça, mais par rapport globalement du coup au partner marketing. Comment est-ce que tu pilotes quels sont les indicateurs du coup que tu vas suivre un petit peu, tu vois, pour voir l'efficace, enfin si demain je voulais lancer, tu vois, dans le partner marketing, comment est-ce que, sur quoi est-ce que je regarde les indicateurs?
Oh là 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 là, est-ce que tu me demandes comment je mesure donc l'efficacité des campagnes qu'on exécute, ou encore autre chose? Parce que...
Bah ouais, du coup, j'allais dire, en fait, tu vois, est-ce que tu mesures... quels sont les indicateurs que tu suis, en fait? Tu vois, est-ce que tu vas mesurer le nombre de partenaires, le nombre de deals par partenaire,
l'efficacité
des campagnes individuellement menées, tu vois, un petit peu, qu'est-ce que tu suis, quoi?
Alors moi, je suis un peu... Ah non, j'aime pas dire contrôle fric, mais j'aime bien aller dans le détail des choses et d'être à fond dans l'analyse. Alors, on n'est pas tous obligés de faire ça, mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que je fais. Mais en gros, oui, on va, en tout cas sur la partie, tout ce qui est partie engagement, comme on disait au départ, comment t'animes tes partenaires, là je vais mesurer, bah oui, combien de partenaires vont par exemple ouvrir ma newsletter, lire tel ou tel contenu, participer à mon webinar mensuel sur le marketing, voilà, pour voir quel est le taux d'engagement des partenaires, et puis derrière prendre les mesures nécessaires pour voir s'il y a très peu d'engagement, pourquoi, et puis réadapter, tu vois, en fonction. Et puis après, sur toute la partie, on va dire plutôt campagne exécutée, etc. C'est très difficile aujourd'hui à mesurer, parce que malheureusement on n'a pas le même système que le marketing direct, mais nous on va utiliser un système de hashtag que les partenaires vont devoir taguer lorsqu'ils rentrent des opportunités, par exemple, ou après ça va aussi être dans des mini QBR qu'on va s'organiser ensemble pour parler ensemble des résultats qu'ils ont eu sur telle ou telle campagne, et en fonction de tout ça on va réajuster les campagnes pour les prochains quarters, par exemple.
Ok, d'accord, donc des métriques d'engagement par rapport à toi, le contenu que tu proposes en tout cas, et l'animation de ta communauté de partenaires, et puis après des métriques un peu plus business sur les résultats des campagnes menées par les partenaires, et puis les opportunités générées, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok, très cool. Top. Merci pour ce partage-là et puis ton expérience sur ce sujet-là. J'allais dire, on se dirige doucement vers la fin, puis j'aime bien toujours conclure, déjà surtout quand on aborde... Ouais, bah écoute, on essaie de faire des épisodes courts et pratiques, tu vois, pour... moi, j'adore les podcasts, mais tu vois, quoi, des fois, quand ça dure 2 heures, ça me frustre aussi de pas pouvoir écouter tout en un coup. Mais ouais, du coup, j'aime bien toujours, parce qu'on parle pas mal de bonnes pratiques au final, surtout que là, en plus, on brosse un sujet qu'on aborde pour la première fois sur le podcast, donc c'est volontairement un petit peu générique pour donner les enjeux. Donc du coup, ça c'est l'aspect qu'on a des fois, en fait c'est surtout qu'on a l'impression que tout se passe bien toujours, tu vois, quand on partage des bonnes pratiques.
Oui.
Mais c'est pas ça la vie de marketeur. Rapidement, du coup, est-ce que tu pourrais nous partager, je sais pas, 2-3 challenges ou des choses sur lesquelles qui posent un petit peu difficulté quand même au quotidien, sur lesquelles t'aimerais bien, tu cherches à avancer en tout cas?
Oh là là, il y en aurait plein, mais je vais rester un peu plus généraliste, on va dire. Mon point d'orgue, c'est vraiment d'essayer de toujours maintenir l'engagement, donc de nos partenaires. Je trouve que c'est important si on veut qu'il continue, voilà, de se développer avec nous, et surtout de les nourrir, voilà, toujours avec du contenu qui soit pertinent et personnalisé, donc pour eux. Moi, mon challenge, il est, vu que je couvre toute la partie Europe, il est sur l'aspect des langues, parce que quand on couvre toute l'Europe, on ne peut pas s'adresser à tous les marchés en anglais. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment de la vraie personnalisation. Et donc, moi, je dois jongler avec, je ne sais pas combien de langues, mais au moins 4 ou 5, avec voilà, tous les contenus rattachés à ça. Donc, c'est énormément de travail, mais j'y tiens, en fait, de pouvoir leur apporter ce contenu-là le plus personnalisé possible. Et le deuxième point pour moi, c'est de pas toujours être. Enfin, il y a des campagnes qui fonctionnent, on va dire, qui vont continuer, qui sont récurrentes, mais c'est aussi toujours être pouvoir se réinventer et innover dans les campagnes qu'on va mettre en place pour se démarquer. Mais ça, c'est propre à moi aussi, parce que j'aime pas faire toujours la même chose, et j'aime bien toujours être en recherche et en innovation, et dans l'innovation. Donc voilà, donc moi, c'est, alors je sais pas si on appelle ça des challenges, c'est pas forcément des challenges, mais en gros, voilà, c'est des choses que moi, j'essaye de maintenir, en tout cas, tous les jours. Donc voilà.
Très cool. Mmh. Écoute, merci pour ça. Si jamais, justement, tu, pour une boîte ou un marketeur, un service marketing plutôt, parce que c'est peut-être pas la question qu'on se pose quand on est tout seul au tout début, mais une équipe marketing qui voudrait développer ce segment-là, l'aspect partner marketing, demain je veux m'y mettre, c'est quoi le conseil que tu me donnerais par rapport à ce qu'on s'est dit, que tu retiendrais de l'épisode?
Ouais, alors c'est pas que le marketing, attention, c'est marketing et sales. Donc en gros, il faut vraiment que le marketing soit en binôme avec les sales sur ça, bah, avant de construire un programme. Donc vraiment, l'entente et la collaboration, en fait, elle va être clé là-dessus. Je pense que j'ai jamais vu une équipe aussi intégrée dans la partie sales que la partie partner marketing. En tout cas, moi, dans mes expériences, hein, ça se passe comme ça. Et le plus évident, bien sûr, ça va être de réfléchir à sa stratégie et à l'histoire que tu vas vouloir raconter avec les partenaires que tu vas identifier. Ça, c'est la clé. On travaille pas avec des partenaires pour travailler avec des partenaires, hein. Il y a quelque chose derrière. Donc, faut vraiment avoir une stratégie qui est claire. Et puis après, faut identifier, donc, les bons partenaires qui ont envie, surtout, de grandir avec vous, ensemble, qui ont des bonnes capacités sales et marketing aussi. Ça, c'est super important. Sinon, si t'en as pas, ben, derrière, tu vas pas pouvoir, forcément revendre la solution. Enfin, je pense que ça fait plutôt sens. Et aussi, ben voilà, être prêt à développer cette relation comme ça de proximité et de confiance, et d'être toujours à l'écoute. C'est pour moi des composantes assez importantes.
Très cool. Écoute, effectivement, insister sur la relation sales market, ça, je pense qu'effectivement, un petit peu, alors encore plus pour le partner marketing, comme tu le dis, c'est un peu l'un des enjeux de tous les marketeurs. Enfin, je pense que ça fonctionne toujours mieux quand ça se passe bien avec les commerciaux. Ouais. Et puis après, effectivement, c'est aussi travailler, du coup, ce que tu dis, c'est les bons partenaires. Enfin, identifier les bons partenaires et bien définir ce que c'est un bon partenaire aussi pour l'entreprise, pour que la relation se passe bien. Parce que c'est ce qu'on disait aussi, le but, c'est pas de les collectionner si ça t'apporte rien.
Non, et sur ce point-là, t'as raison. Il faut, si je peux donner un autre conseil, en amont, c'est vraiment d'avoir une fiche de critères. Donc, lister un petit peu les critères d'un bon partenaire pour vous. Et tenez-vous à cette liste-là quand vous allez recruter des nouveaux partenaires. Parce que sans cette liste, et sans, on appelle ça un profil idéal, on va dire. Ouais. Donc, définissez ce profil idéal. Et à partir de là, voilà, ce sera un peu plus simple pour recruter les partenaires que vous souhaitez avoir. C'est un bon point de rappeler.
Très cool. Mais écoute, merci beaucoup, Sharon, pour tout ça. Si jamais il y a des petites questions pour toi suite à l'épisode, on peut te trouver sur LinkedIn.
Oui, trouvez-moi sur LinkedIn. Alors moi, je serais ravie d'échanger sur ce sujet-là. Voilà, je suis une vraie passionnée. Donc avec grand plaisir pour donner... des conseils si besoin, voilà.
Super, bah écoute, encore une fois, merci beaucoup pour tout ça, c'était super intéressant, et puis bah, je te souhaite maintenant une bonne journée.
Bah, merci Axel pour l'invitation, très belle journée, au revoir.
Salut.
À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.